Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est celui qui nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous puissions lui appartenir, pour que nous soyons ce peuple lavé, purifié pour la gloire de Dieu. Et ce matin encore, il va nous exhorter, il va nous parler, il va nous fortifier par sa parole, parce qu'il nous prépare pour son royaume, pour sa rencontre. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est très important pour Dieu et aussi pour son peuple, c'est la rencontre avec Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ce matin, nous allons examiner la parole de Dieu dans cette optique. Pourquoi Dieu veut-il qu'on se prépare et comment nous devons nous préparer pour sa rencontre? Être chrétien, ce n'est pas venir dans une assemblée, faire des activités dans une assemblée et s'arrêter là. Être chrétien, c'est avoir la vue de Dieu en soi et surtout marcher par l'Esprit et se retrouver au dernier jour avec le Seigneur dans son royaume. Si nous faisons des activités sur la terre, même au nom du Seigneur, et que nous sommes rejetés le dernier jour, nous aurons tout perdu. Le Seigneur revient. Bientôt, on dira même très bientôt, parce que les signes sont là. Même les païens, les incroyants, commencent à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même les incroyants commencent à dire que le monde n'est plus pareil. Ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à se dire, mais il y a des bouleversements qui nous surprennent. On parle de bruit de guerre. On parle de tremblements de terre, d'épidémies, de toutes ces choses. On parle du bouleversement de la société. On parle des mœurs qui sont en train de tomber en morceaux. Quelle est l'attitude de l'Église devant tous ces événements? De quel côté l'Église doit-elle porter son regard pour ne pas être surpris, pour ne pas s'habituer à une vie, entre guillemets, spirituelle ou religieuse, et penser qu'on est en sécurité et être surpris au dernier jour? Le Seigneur veut ce matin nous avertir, parce que sa parole dit ceci, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. On peut se dire, mais tout va bien, j'ai une assemblée, je suis régulier au culte, à toutes les réunions, je participe à ces activités, ma vie, j'ai quitté le monde, je ne bois plus, je ne fume plus, j'ai coupé des liens avec l'occultisme, toutes ces choses. Mais est-ce que c'est vraiment la garantie que si aujourd'hui la trompette sonnait, si aujourd'hui le Seigneur descendait du ciel, il vous prendra avec lui? Est-ce la garantie? Est-ce que c'est certain? On peut se bercer d'illusions, pensant que tout va bien, pensant qu'il n'y a plus rien à régler parce que quelque part, on a une vie chrétienne et on oublie l'essentiel. On oublie de laisser le Saint-Esprit nous sonder, de laisser le Saint-Esprit aller aux profondeurs des choses dans notre vie pour nous montrer ce qui ne va pas. Comme ce jeune homme riche qui était venu vers Jésus pour dire « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit « Observe les commandements. » Il dit « Lesquels? Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne porteras pas de faux témoignages. » Tu honoreras ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, oui, mais il te manque encore une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ce jeune homme partit tout triste parce qu'il avait de grands biens. Mais ce qui est étonnant, surprenant dans cette histoire racontée par la Bible, par la parole de Dieu, c'est que Jésus aima cet homme. Il partit tout triste, mais Jésus l'aime. Jésus l'a laissé partir. Jésus n'a pas couru derrière cet homme pour le retenir, parce qu'il avait un choix à faire. Et le choix ne dépendait que de lui. Dieu nous aime. Il a donné son Fils pour nous. Il a tout fait pour que le salut nous soit accessible. Mais la décision, la dernière décision, ce sera à nous de la prendre. Ce n'est pas Dieu qui la fera à notre place. Ce n'est pas Dieu qui la prendra à notre place. Il nous mettra devant le fait accompli. Son salut est là devant nous. C'est à nous de décider si oui ou non nous voulons entrer dans ce salut. C'est à nous de décider si oui ou non nous voulons prendre la main qui nous tend. Si nous voulons laisser le Saint-Esprit nous examiner de fond en comble. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, s'est révélé au travers de Jésus. Comme homme de douleur habitué à la souffrance, Jésus a marché sur la terre d'Israël. Il a été partout, humble, sans apparat, sans éclat. Il s'est laissé crucifier. Pourtant, lui, créateur de toutes choses, Dieu puissant, Dieu éternel, il s'est laissé maltraiter par les hommes. Peut-être que ce n'est que cette image que nous avons de Jésus. Ou encore l'image de Jésus dans la crèche. Mais avons-nous l'image de Jésus comme celui qui vient avec puissance, avec gloire pour juger les nations? Avons-nous l'image de Jésus comme celui qui a des yeux comme des flammes de feu? Avons-nous l'image de Jésus comme celui qui a une épée qui sort de sa bouche pour juger les nations? La parole de Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Il dit encore, rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Pas nos titres religieux. Pas nos titres spirituels. Pas nos positions dans l'œuvre de Dieu. Personne. Sans la sanctification, ne verra le Seigneur. Il est temps que nous puissions nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous allons lire dans Amos, chapitre 4. Amos 4, du verset 1er au verset 13. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi C'est pour cela, je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Une image décrite ici de la relation de Dieu avec son peuple d'Israël. On ne voit que des calamités. On ne voit que des difficultés, des sanctions qui viennent de la part de qui ? Qui viennent de l'Éternel des armées. Dieu a utilisé plusieurs langages. Il a utilisé la famine. Il a utilisé la sécheresse. Il a utilisé la maladie, toutes ces choses. Il a frappé son peuple pour que le peuple comprenne qu'il est temps de revenir à Dieu. Pour que le peuple comprenne qu'il est temps de s'humilier devant l'Éternel. Pour que le peuple comprenne qu'il est temps de se repentir. Mais rien n'a changé. Le peuple n'a pas appris la leçon que Dieu était en train de lui parler au travers des événements difficiles. À plusieurs reprises, le Seigneur a dit, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. » Malgré les calamités, vous n'êtes pas revenu à moi. Vous avez continué votre chemin. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout va mal autour de nous. La société va mal. En politique, ça va mal. En économie, ça va mal. Est-ce que les hommes sont revenus à Dieu ? Est-ce que les hommes ont cherché Dieu ? Non. Les églises vont mal. Les ministères vont mal. Les chrétiens vont mal majoritairement. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des scandales à droite et à gauche, même dans les églises. Est-ce qu'il y a une véritable repentance ? Est-ce qu'il y a un véritable retour à Dieu ? Où on crie à Dieu, on dit « Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, viens nous visiter. » Non. Comme si de rien n'était. Nous continuons notre route. Comme si Dieu du haut des cieux ne regarde pas. Comme si Dieu approuve nos manières de faire. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler d'église ? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler de serviteurs de Dieu ? À cause de l'immoralité qui est même dans les églises. À cause des scandales qui sont dans les églises. Mais Dieu nous parle au travers de ces événements. Dieu nous interpelle au travers de ces scandales. Pour qu'on cherche sa face. Pour que nous nous humilions devant lui. Et malgré cela, est-ce que nous nous humilions ? Non. Nous continuons notre route. Nous continuons joyeusement notre chemin. Quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il demandait la repentance à un peuple qui avait la loi de Moïse. Il demandait la repentance à un peuple qui avait le temple à Jérusalem. Il demandait la repentance à un peuple qui avait des synagogues. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. De même, Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Seigneur, il a prêché le même message. Repentez-vous. Changez de direction, changez de vie. Revenez à Dieu. Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il a prêché à ces foules qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte, il leur a dit, repentez-vous. L'Église aujourd'hui a besoin de la repentance. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu, en esprit et en vérité. Nous avons besoin de nous soumettre à la parole de Dieu, en esprit et en vérité, pour être prêts. Pour son retour. Dieu est saint. Quand Ésaïe était dans le temple, il voit la gloire de Dieu. Dieu lui ouvre les yeux. Il a cette grâce de voir la gloire de Dieu. Il a crié. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. Malheur à moi. Il était prophète. Prophète authentique de Dieu. Et il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Parce qu'il a vu Dieu. Nous ne craignons pas Dieu parce que nous ne le voyons pas. Nous ne craignons pas Dieu parce que nous n'avons pas la vraie vision de qui est Dieu. Quand nous allons comprendre qui il est, c'est dans la poussière de la repentance que nous allons chercher sa face. Nous n'allons plus parler à Dieu n'importe comment. Il est Dieu, roi de gloire. Il est le Dieu saint. Nous devons reconsidérer qui il est. Il est amour, c'est vrai. Plein de grâce, c'est vrai. Plein de bonté, c'est vrai. Mais il est saint. Quand Isaïe l'a vu, les chérubins criaient, saint, 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 et l'Éternel des armées. Alléluia. Nous avons besoin. Nous allons nous préparer à la rencontre de ce Dieu saint. Il vient pour chercher une église sainte, lavée, purifiée, sans tache ni ride. Pas une église corrompue, pas une prostituée. La prostituée, c'est Babylone, l'église du monde, qui s'est souillée. Mais le Seigneur vient pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il va juger le monde. Parce que les jugements de Dieu vont frapper le monde. Mais il ne veut pas que nous, nous soyons frappés avec le monde. Il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde. C'est un acte d'amour pour nous. Ne négligeons pas l'amour de Dieu. Ne prenons pas à la légère les avertissements de Dieu. Il est temps pour nous de considérer comment nous marchons avec lui. Il est temps pour nous de sonder nos voies. Comment considérons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nous tremblons à sa parole? Le Seigneur dit, voici l'homme sur qui je porterai ma part, mes regards. C'est celui qui tremble à ma parole. Quand je lis la Bible, quand elle me reprend, comment je réagis? De suite, je mets les choses en règle ou je laisse de côté? Nous avons besoin de demander que Dieu nous aide. Nous allons lire Jérémie, chapitre 13. Jérémie, chapitre 13. Jérémie 13, versets 15 à 18. Et dans ma Bible, il y a un titre dans ce passage qui dit « Avertissement et menace ». Avertissement et menace. Nous lisons à partir du verset 15, Jérémie 13. « Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous par terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Avertissement et menace, C'est Dieu qui avertit, c'est Dieu qui menace. Il avertit parce qu'il aime. Il avertit parce qu'il sait ce qui va arriver. Il avertit parce qu'il veut nous épargner. Il dit, écoutez, prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux car l'Éternel parle. L'orgueil, c'est quoi? C'est pour dire, mais on n'a rien à changer. Qu'est-ce qu'on doit changer? Tout va bien. L'orgueil, c'est quoi? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut nous apprendre ce prédicateur ce matin? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il va nous apporter ce matin? Qui est-il pour nous avertir? Qui est-il? L'orgueil, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître la voix du Saint-Esprit. C'est de ne pas se soumettre aux avertissements de notre Seigneur. L'orgueil, c'est quoi? C'est de mépriser les avertissements de Dieu. Le Seigneur parle avec amour. Il dit, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Les montagnes de la nuit, oui, arrivent. Les montagnes de la nuit arrivent. Les temps arrivent où il sera difficile même pour les chrétiens de tenir parce qu'il y aura une forte pression. Être chrétien, ça deviendra compliqué. Proclamer qu'on est de Jésus, véritablement de Jésus, ça deviendra difficile. Parce que le monde va nous mettre une pression pour qu'on fasse des compromis. Là où vous travaillez, viendra un temps où vous devez choisir. Soit Jésus, soit le compromis. Faire les choses comme le monde. Viendra un temps où pour accoucher, on va vous demander de passer par la sophrologie ou par l'hypnotisme. On va vous dire c'est médical. La sage-femme va vous dire, madame, moi, c'est ma méthode. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ça se fait déjà dans certains hôpitaux. Ou pour être opéré, on met le patient sous hypnose. On dit c'est sans douleur. Ces choses sont diaboliques. Mais tous les chrétiens ne sont pas avertis. Il y en a qui disent, oui, c'est des médecines parallèles. Ça ne fait pas de mal. C'est diabolique. C'est de l'occultisme. Viendra un temps, il faut choisir quel métier exercer. Parce qu'il y aura la pression. Parler de Jésus deviendra de plus en plus compliqué. Et la Bible nous avertit. Il vient, l'homme impie, celui qu'on appelle l'Antichrist, qui va régner. Viendra un temps où il y aura un gouvernement mondial qui va imposer ses lois. Prions que Dieu nous enlève avant cela. Mais ce n'est pas sûr. Parce que ces choses sont en train de se mettre en place à une vitesse grand V. Viendra un temps où pour prendre une assurance pour votre maison, on va vous demander peut-être de prendre la marque. On va vous demander de faire des compromis. Et que parce que vous êtes chrétien, votre dossier ne sera pas pris. Parce que vous serez considéré comme quelqu'un qui appartient à une secte. Nous ne sommes pas loin de ces événements. Les montants de la nuit arrivent. Il est temps de se préparer. Il est temps de se préparer d'affronter ces choses. Pas par force, ni par puissance, mais avec l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que Dieu nous parle. Le Seigneur, c'est un Dieu qui parle. Il va nous orienter si nous sommes dans sa parole, si nous laissons enseigner par lui. Même dans les temps difficiles, Dieu parlera à son peuple. Il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, J'ai décidé de détruire toute l'humanité, mais construis-toi une arche. Il a donné les dimensions à Noé. Noé a exécuté cela, alors que toute la population de son époque n'était pas au courant de ce qui se passait. Noé a été averti. Le Seigneur a averti Lot qu'il allait détruire Sodome et Gomorre. Il a dit à Lot de sortir de la ville. Le Seigneur va avertir son église. Mais pour être averti, il ne faut pas être distrait. Nous avons besoin d'une communion véritable avec Dieu. Les temps difficiles arrivent. Les temps d'angoisse arrivent. Mais que faisons-nous? Que cherchons-nous? Comment marchons-nous? Quelles sont nos priorités? Le Seigneur Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui veut dire, lorsque les chrétiens se rencontrent, ils doivent parler de quoi et de qui? Quels sont les sujets de nos conversations entre chrétiens? Les dernières soldes? Les derniers vêtements à la mode? Le dernier match de football? L'équipe champion de France ou d'Europe? Nous sommes dans la distraction, les amis, mes frères et sœurs. La situation est sérieuse. La Bible nous dit, le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La vie éternelle, c'est faire la volonté de Dieu. Ça va nous arriver subitement. C'est pour cela qu'il a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est aussi dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas été dans les réunions de culte? N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas fait des voyages missionnaires? Le plus important, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Le problème, il est là. C'est sa volonté qui nous garantit qu'il est avec nous. Pour connaître sa volonté, il faut la chercher. Amen. La Bible nous parle de deux frères, Caïn et Abel. Tous les deux, animés d'une bonne volonté pour faire des actes, des sacrifices ou des offrandes à Dieu. Caïn, cultivateur, il prend les produits de la terre, il les apprête, il fait une offrande à Dieu. Motivé, déterminé à plaire à Dieu. Il a été rejeté. Dieu n'a pas agréé ses offrandes. Par contre, Abel, il prend un agneau de son troupeau, il apprête, il fait une offrande à Dieu, Dieu accepte. Quelle était la différence entre ces deux offrandes? Abel connaissait la volonté de Dieu. Parce que dans les héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, on dit que c'est par la foi que Abel offrit une offrande plus agréable à Dieu. Par la foi. Il n'a pas fait une offrande simplement parce qu'il voulait faire quelque chose. Il avait la révélation de qui était Dieu. Il a fait une offrande du sang. Mais son frère Caïn, il a voulu servir Dieu avec sa méthode, avec sa vision, avec son analyse. Ça n'a pas marché. Amen. Sœur, celui-là qui fait la volonté de mon Père, nous devons chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Seigneur, où est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Comment je dois le faire? Quand est-ce que je dois le faire? Avec qui je dois le faire? Où je dois le faire? C'est sa volonté qui compte. Sinon, nous allons bâtir sur du sable. Viendra la tempête. Viendra les événements difficiles. Tout va s'écrouler. Sinon, nous allons apporter à notre Dieu des ballots de paille. Parce qu'il le dit, de l'épître aux Corinthiens. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et que chacun bâtit dessus. Mais prenez garde à la manière dont chacun bâtit. Parce que certains vont bâtir avec des matériaux précieux, de l'or, de l'argent. D'autres vont bâtir dessus avec du bois. D'autres vont bâtir avec du foin, c'est-à-dire de la paille. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Le feu va attester quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il aura une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, lui sera sauvé. Mais comme au travers du feu, mais il va perdre sa récompense. Le Seigneur revient. Il y a une récompense pour les rachetés que nous sommes. Mais tout le monde ne sera pas enlevé. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Si la trompette sonne maintenant que nous sommes dans cette assemblée, combien de personnes partiront? Seul Dieu le sait. Mais on doit se poser la question. Serais-je du voyage? Ferais-je partie de ceux-là? On peut se bercer d'illusion et dire oui, je ferai partie. Est-ce sûr? Est-ce sûr? Nous avons besoin de marcher dans la vérité. C'est pour cela que le Seigneur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous montrer ce qui ne va pas. Nous montrer ce qui nous empêche aujourd'hui d'être dans la volonté de Dieu, d'être agréable à Dieu. Qu'il règle ce qu'il reste à régler. Qu'il mette le doigt, même si ça doit nous faire mal. Mieux vaut perdre des amis sur la terre. Mieux vaut perdre des avantages sur la terre. Mais recevoir le salut de son âme. Être avec le Seigneur. Qu'est-ce qui vous empêche de marcher droitement devant Dieu? Est-ce un avantage financier? Parce que quelqu'un vous aide financièrement, mais cette relation, c'est une relation de péché. Parce que vous n'êtes pas marié, mais c'est une personne qui vous soutient. Et vous vivez en concubinage avec cette personne. Et vous dites que mais si je laisse cette relation, qui va payer le loyer pour moi? Qui va s'occuper de moi pour le manger? Il aide ma famille. Il envoie des sommes d'argent, mais si je laisse tomber cet homme ou même cette femme, comment je vais vivre? Nous avons besoin de trancher. Ou encore, on est dans une situation où on vit dans le mensonge. Personne ne sait, mais vous êtes conscient que votre situation est une situation mensongère. Dieu voit. Dieu sait tout. Peut-être même les papiers que vous avez ne sont pas les vôtres. Mais attendre Jésus-Christ, c'est cela aussi, c'est tout mettre en lumière. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Peut-être encore. Là, ça va être peut-être difficile à dire, mais il faut le dire quand même, parce que Dieu est lumière. Peut-être que vous avez trompé votre mari. Et que l'enfant que vous avez n'est pas de lui. Et que vous n'avez jamais dit la vérité. Et qu'il a peut-être des soupçons. Peut-être qu'il n'ose pas le dire aussi pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le couple. Mais avec Dieu, on peut régler la situation, que les choses soient mises au clair. Ne restons pas dans les ténèbres. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Dieu est lumière. Si ça ne se règle pas maintenant, ça se verra le jour où le Seigneur va se révéler. Ça se verra le jour où le Seigneur va apparaître. Et quel drame! d'avoir passé des années dans une église, des mois dans une église, et de se retrouver dehors comme hypocrite. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Mais ce jour, c'est un jour de lumière qui va tout mettre en lumière. C'est aussi un jour de ténèbres. Parce que beaucoup seront dans les ténèbres ce jour-là. Le Seigneur nous aime, c'est pour cela ce matin, il nous exhorte. Nous allons dans Nombre, chapitre 25. Voir la situation du peuple d'Israël à l'époque, Nombre 25. Comment le péché peut détruire la communion avec Dieu et mettre en danger tout un peuple. Nombre 25, versets 1 à 18. Nous lisons ceci dans Nombre 25, 1 à 18. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal, Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël de sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issues d'une maison paternelle de Madian. Voilà une situation de détresse. Cette situation vient après que Balaam, le faux prophète, le devin, appelé par Balak pour maudire Israël, a échoué dans son œuvre. Mais cet homme va conseiller le roi de Moab pour qu'il puisse envoyer les filles, les Madianites, faire la cour aux enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël, les garçons, puissent aller avec ces filles et commencer à servir les dieux étrangers. Alors le peuple, les jeunes enfants d'Israël, les hommes, commencèrent à sortir avec ces filles et à adorer leurs dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu n'a pas du tout apprécié que son peuple sorti d'Égypte, le peuple qui a reçu la parole, puisse se livrer à l'impudicité et à l'idolâtrie. Alors, il y a eu parmi le peuple une sanction, une punition demandée par Dieu. Et Dieu demande à Moïse d'exercer cette sanction. Et Moïse demande à tous les chefs du peuple, chacun de tuer ceux de sa maison qui avaient péché. Sans pitié. Et 24 000 personnes vont périr ce jour-là. Et pendant ce temps que le peuple, après avoir tué ces personnes, est en train de chercher la face de Dieu, en train de crier à Dieu pour demander pardon, voilà qu'un homme se présente. Cet homme va chercher une femme madianite et il commence, il va avec cette femme dans la tente en plein jour pour s'unir à elle pendant que le peuple est en train de crier parce qu'il a péché. Alors, Phiné, animé du zèle de Dieu, animé de la colère de Dieu, prend sa lance, entre dans la tente et tue cet homme avec la femme étrangère. La colère de Dieu. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Mais quand on touche à la sainteté de Dieu, quand on touche à la gloire de Dieu, alors Dieu montre qu'il est le Dieu de justice et le Dieu de jugement. Dieu déteste le péché. C'était au moment où le peuple était de prier, de crier à Dieu, et voilà qu'un homme ose affronter Dieu. Il méprise la sainteté de Dieu. Cet homme est puni de mort. Après les 24 000. Cet épisode est repris par l'apôtre Paul dans le premier livre aux Corinthiens chapitre 10. Il dit, nous ne devons pas devenir idolâtres. Ces hommes étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils commençaient à adorer d'autres dieux, Baal, Péor, Baal, un dieu étranger, des enfants d'Israël qui avaient reçu le commandement par Moïse de la part de Dieu, que vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Ils ont commencé à s'unir à des peuples étrangers et à adorer des dieux étrangers. Ils ont amené au sein de la communauté d'Israël le péché, l'idolâtrie. Nous sommes l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement des rachetés. Le rassemblement de ce que Dieu a purifié par le sang de son Fils. Le rassemblement de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui forment maintenant le corps de Christ. C'est cela l'Église. Mais l'Église doit se conserver pure, c'est-à-dire vous et moi. Nous n'avons pas de lien avec l'impureté du monde. Nous n'avons pas à trafiquer avec les choses du monde. La parole de Dieu est claire. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est ce qui amène la jalousie de Dieu à se manifester. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il nous a choisis pour lui. Il nous a rachetés pour lui. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ. À Christ, comme une vierge pure. Nous, peuple de Dieu, nous sommes cette vierge pure, fiancée à Christ. Mais les fiançailles doivent aboutir au mariage. Pour l'instant, nous sommes fiancés. Mais le jour viendra, ça sera le mariage, les noces de l'agneau. Mais comment nous comportons-nous en tant qu'épouse, en tant que fiancée du Seigneur? Si les choses du monde entrent dans nos cœurs, nous sommes dans l'idolâtrie. Il faudra choisir. Il faudra se débarrasser de certaines choses. Je le dis parce que moi-même, je l'ai subi. J'étais adepte du journal télévisé. Quand j'allais travailler, je n'avais qu'une hâte de savoir ce qui se passe dans les informations. Il fallait que je revienne à la maison avant 20h, parce qu'à 20h pile, je devais être devant mon écran pour les informations. C'était ma passion. Les débats politiques, c'était ma passion. Mais le Seigneur est passé par là. Il a détruit cet attachement qui était en moi. La télévision, c'était mon idole, parce que le journal télévisé, ça me prenait mon cœur. Je roulais vite pour arriver à la maison, pour que je regarde les informations, 20 heures. Peut-être que vous, ce n'est pas la télévision. Ça peut être autre chose. Peut-être les jeux d'argent. Qu'est-ce qui vous tient votre cœur? Peut-être un feuilleton. Un feuilleton que vous ne raterez sous aucun prétexte. Qu'est-ce qui vous tient? Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être le sport. On peut aussi faire la culture de son corps, la musculation. Quand c'est fait de manière légère, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à prendre votre temps de prière, quand ces activités commencent à prendre votre temps de méditation, la parole de Dieu, votre communion avec le Seigneur, là, il y a une idolâtrie. Le sport, c'est bien pour l'exercice physique, c'est bien. Mais Paul dit, c'est utile à peu de choses. On peut le faire pour se sentir en forme, il n'y a pas de souci. Mais quand nous devenons fanatiques, comme le monde, quand nous commençons nous aussi à adorer ceux qui sont dans le monde, comme les hommes du monde, il y a un problème. C'est une idolâtrie. Je le dis parce que je suis sorti de là moi aussi. J'avais aussi mes chanteurs du monde. Dieu m'en a délivré. J'avais des chanteurs du monde que j'aimais. J'avais tout un cahier, je recopiais leurs chansons. Mais le Seigneur est passé par là. Qu'est-ce qui vous tient? Quelles sont les conversations que nous avons entre nous en tant qu'enfants de Dieu quand nous nous réunissons? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me souviens dans une assemblée où j'étais, la passion, l'idolâtrie, c'était les voitures. Chaque fois que quelqu'un achetait une nouvelle voiture, et ça s'achetait très vite, souvent, on amenait tout le monde au parking de l'église pour montrer la voiture. C'était ça. Les voitures étaient changées pratiquement chaque 8 mois, chaque 7 mois, les gens changeaient de voiture. C'était ça, dans cette assemblée-là. Oui, c'est ça. Et ceux qui avaient des vieilles voitures en souffraient, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de les changer. C'est ça. Qu'est-ce qui nous prend? Notre image, notre look, ça peut aussi devenir une idolâtrie. Le temps qu'on passe avant de venir au culte. On voit ce vêtement, non, ça ne va pas. On prend celui-là, non, ça ne va pas. On change, non. On perd du temps. Au lieu d'être dans la prière, de préparer le culte, de préparer la rencontre avec Dieu. Le look, notre physique, qui un jour va se retrouver dans la tombe, en train de pourrir, mangé par les asticots. Excusez-moi, c'est la réalité. Notre cœur, il est dans quel état? Notre cœur, il est dans quel état? Notre langage, comment parlons-nous? La Bible nous dit, que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Que les hommes rendent compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Sommes-nous conscients que Dieu nous écoute? Sommes-nous conscients que Dieu nous entend? Sommes-nous conscients qu'un jour nous nous tiendrons devant lui? Et que toutes les paroles que nous aurons sorties de notre bouche vont apparaître ce jour-là. Nous avons une certaine image d'un Dieu tout petit, qui est loin, qui ne nous voit pas, qui ne nous connaît pas, qui ne nous comprend pas. Nous nous trompons. Revenons à la sainteté de Dieu. Revenons à la sanctification de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions examiner nos voies. Sommes-nous en train de nous préparer? Sommes-nous en train de penser au retour du Seigneur? Qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui nous motive? Quelles sont nos préoccupations? Quels sont nos sujets? Le matin, quand on se réveille, nos pensées vont vers quelle direction? Le soir, nos pensées vont vers quelle direction? Qu'est-ce qu'il fait? Les querelles dans les couples. Parce qu'on s'occupe des choses de la terre, tellement les choses de la terre prennent la place. On se bagarre, on se chamaille pour des vêtements, pour des petites choses, pour des meubles, pour des petites choses de la terre. Et les couples manquent de paix. Pour la gestion de ceci, la gestion de cela, pour le goût, pour les couleurs, du papier peint, des choses de la terre qui amènent parfois les chrétiens à ne plus prier ensemble, à ne plus marcher ensemble dans le couple. Des choses de la terre. Mais nous avons besoin maintenant de lever nos regards vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, prépare-moi à ta rencontre. Seigneur, aide-moi à regarder à toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi de comprendre ta parole. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, de prendre le temps de la méditer. C'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Le Seigneur va dire, tu avais ma parole. Est-ce que tu avais pris le temps de la lire? Nous allons dire, oui, mais j'avais culte, j'allais au culte. Oui, le pasteur ne m'avait pas enseigné ça. Oui, mon pasteur ne m'avait pas dit cela. Oui, mais est-ce que ma parole ne t'avait pas dit cela? La parole de Dieu est à notre disposition. La préparation de l'Église, la préparation de l'épouse passe par une consécration jour après jour. Il n'y a pas de temps mort avec Jésus. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous montrer ce qui ne va pas. De laisser le Saint-Esprit mettre en nous le doigt dans nos cœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu regarde au cœur. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si une personne avec qui tu t'entends bien risque de te faire chuter dans le péché, coupe la relation, éloigne-toi. C'est ça. Si une personne que tu fréquentes, avec qui peut-être tu travailles ensemble, à des gestes déplacés, ne reste pas avec cette personne. Fuis pour ton âme. Alléluia. Nous avons besoin de nous protéger. Protégeons-nous. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Examinons toutes choses. Si ma façon de parler peut faire tomber quelqu'un dans le péché, je dois examiner. Si ma façon de m'habiller risque de faire tomber quelqu'un dans le péché, je dois m'examiner. Toute chose doit être examinée. Pour ne pas devenir une pierre d'achoppement. Pour amener quelqu'un en enfer. Parce qu'on a voulu se montrer, on a voulu faire présenter quelle image? Non. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Le Seigneur est à la porte. Mais combien seront sauvés? Combien seront enlevés? Pas grand monde. Pas grand monde. Parce que le Seigneur a dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passeront par là. La facilité, une vie chrétienne légère, où le péché est toléré, mais resserré, mais étroit la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Peu le trouvent. Peu ceux qui cherchent la vérité, peu ceux qui marchent avec Dieu, peu ceux qui se sacrifient, qui abandonnent, qui coupent tout ce qui ne va pas pour être avec Dieu, qui n'aiment que Dieu seul. Alléluia. C'est Dieu seul que nous devons chercher. C'est lui qui nous jugera au dernier jour. Plaire à Dieu, pas aux hommes. Le Seigneur nous attend sur ce point-là. Il veut nous amener avec lui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux, Seigneur, nous exhorter à être conscients de la situation, que nous vivons des temps difficiles, que nous vivons des temps de séduction, que le monde nous séduit, le monde nous attire, mais que aide-nous, notre Père, nous devons tourner nos regards vers toi. Chercher ta présence jour et nuit. Chercher à marcher avec toi, ô Père. Seigneur, nous crions à toi. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas dire, comme ces hommes dont parle l'épître de Pierre qui disent où sont les promesses, où est la promesse de son avènement. Car les choses sont pareilles comme depuis le temps de nos pères. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans cette légèreté. Aide-nous à ne pas tomber, Seigneur, dans cette négligence. Mais aide-nous à laver nos robes dans le sang de l'agneau. Aide-nous, Père de gloire, à garder nos lampes allumées comme les vierges sages. Ô Dieu de grâce, réveille chacun de tes enfants ce matin. Réveille chacun de tes enfants ce matin. Père, si ce matin il y a une seule âme, Père, qui peut, Seigneur, accepter ton message et s'approcher de toi, Père, pour chercher ta face. Ô Dieu, c'est ta gloire qui est révélée. Père, si ce matin tu peux bouger, ne fût-ce qu'un seul cœur, Père, qui se prépare à ton retour. Ô Dieu, ta gloire est révélée. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Merci parce que tu sais comment nous remuer au-dedans de nous, parce que tu nous aimes. C'est par amour que tu nous parles. Que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.